Christophe Morel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef économiste de Groupama Asset Management. On va parler avec vous d'économie et puis de perspectives économiques. Après, bien sûr, la décision de la Réserve fédérale américaine de monter ses taux. Vous faisiez partie, comme d'autres, de ceux qui pensaient qu'elle aurait dû le faire bien avant, ce mois de décembre 2016. C'est fait. Qu'est-ce que ça change pour l'économie ?
Eh bien, d'abord, si elle monte les taux, ça traduit une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'économie américaine va bien. Effectivement, elle va très bien. Il y a plutôt de la croissance. Cette croissance est équilibrée. Il y a aussi de la croissance à peu près dans tous les secteurs. On voit, ça va bien dans l'industrie, ça va dans les services, ça va aussi dans la construction. Et surtout, ce qui est très intéressant quand on regarde les enquêtes de conjoncture, c'est qu'on a l'impression que l'horizon des entreprises américaines est en train de s'allonger. C'est-à-dire que non seulement elles se remettent à produire parce qu'il y a du retard de stockage, mais en plus, on sent qu'il y a des velléités de se remettre à investir, donc des signaux très forts venant de l'investissement. Donc, c'est plutôt une croissance qui est assez durable et persistante pour le moment.
Alors, on sait qu'au cours des semaines précédentes, la Réserve fédérale américaine avait pu mettre en avant l'environnement mondial, ce qui se passait en Europe, ce qui se passait... là, ce n'est plus le cas. L'environnement global est un peu plus favorable.
Et il est plus favorable. C'est-à-dire que finalement, la dynamique conjoncturelle qu'on observe aux États-Unis, on l'observe un petit peu partout, en tout cas dans tous les pays développés, simultanément. C'est-à-dire qu'il y a même quelque chose de très synchrone dans cette dynamique conjoncturelle. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'au fond, un peu dans tous les pays, il y a eu la même histoire. C'est-à-dire une consommation qui a somme toute assez bien tenue, assez bien résisté. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la baisse du prix du pétrole, hein, donc ça a soutenu la consommation. Et face à cela, on a eu des entreprises qui étaient très attentistes. Donc on est dans une situation qui est très intéressante du point de vue de la conjoncture, où l'offre, les entreprises, la production a du retard par rapport à la consommation. Et donc quand on a une telle situation, eh bien on a finalement un élastique conjoncturel qui est positif. C'est-à-dire que finalement, il peut y avoir des incertitudes dans le monde, eh bien, au fond, les entreprises sont arrivées à un stade où elles sont obligées, d'une certaine manière, de se remettre à produire. Et donc, ça arrive simultanément. Et donc, là, il y a une dynamique conjoncturelle qui est en train de se mettre en place. Et on le sent, s'il y a des perspectives d'investissement, ça sera une très bonne nouvelle pour le commerce mondial. Donc, on a quelque chose qui a tendance à s'entretenir et qui est plutôt très positif aujourd'hui pour la dynamique mondiale.
Alors, en même temps, toujours dans son discours, on a eu l'éventualité de trois hausses de taux, effectivement, en 2017. Ce n'était pas forcément ce que prévoyaient les marchés. Compte tenu de ce qui s'est passé auparavant, est-ce qu'aujourd'hui, il faut être peut-être plus prudent sur 2017? Ce n'est pas du tout sûr qu'il y aura trois hausses de taux en 2017?
Non, rien n'est acquis. D'ailleurs, on ne sait pas très, très, très précisément si c'est 2, si c'est 3. Quand on regarde de façon fine la distribution de ce que pensent les banquiers centraux, c'est un petit peu plus complexe. On voit certains qui étaient très prudents le sont un peu moins, et puis d'autres, au contraire, qui étaient très au quiche, eh bien, le sont un petit peu moins. Donc, ça s'est resserré. Ce qui est très important, c'est aussi ce que pense le chef. C'est-à-dire, Janet Yellen, quand on l'écoute, aujourd'hui, on a l'impression qu'elle n'a pas changé d'avis. Elle dit quelque chose de très intéressant, c'est que le taux neutre aujourd'hui, il est sans doute bas, très bas, et au final, la politique monétaire n'est pas si accommodante que cela. Dit autrement, elle considère au fond que la Banque centrale américaine n'est pas en retard. Donc, il n'y a pas d'urgence à aller plus vite. Et évidemment, ce que va faire la Fed va être très dépendant du programme économique de Donald Trump. Ça va être très très lié. Et aujourd'hui, d'abord, on n'a pas de visibilité. Ce qui est intéressant, c'est que bon, sur le fameux biais protectionniste qu'on pouvait craindre, parce qu'évidemment, il y a un risque d'inflation, quand on regarde aujourd'hui, on s'aperçoit que Donald Trump est très orienté vers les entreprises. On imagine mal un choc qui conduira à dégrader la marge des entreprises. On le voit bien, ce qu'il risque de faire très probablement, et ce qu'il a annoncé, c'est remettre en cause l'accord transpacifique. Comme ça, il est en accord avec ses promesses électorales et pas davantage. Et enfin, ce qui est très important, c'est sur le programme de relance et son impact sur la croissance et donc sur l'inflation. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas surestimer ce programme, enfin, l'impact sur la croissance, parce qu'on le sait, les fameux effets multiplicateurs sont sans doute beaucoup plus bas dans une période d'expansion que dans une période de récession. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas surestimer. Et ensuite, il y a le fameux programme d'infrastructure dont tout le monde se dit, ben voilà, ça va relancer l'économie. Il faut le nuancer parce que ça dépend finalement de qui le finance. Ce n'est pas la même chose si c'est financé par l'État, donc c'est vraiment... et derrière, il y a une création monétaire ex nihilo, ou si c'est au fond financé par le secteur privé avec un réarbitrage. Donc au final, il y aura un impact sur la croissance, il faut être avoir plus de visibilité et ne pas le surestimer.
Mais dès aujourd'hui. Alors, si on revient du côté de l'Europe, est-ce que ça va un peu mieux en Europe et qu'est-ce que ça change pour l'Europe, ce nouveau contexte américain ?
Ben, en fait, dans l'Europe, c'est la même histoire qu'ailleurs, je vous le dis. C'est-à-dire qu'on le voit d'ailleurs depuis avant l'été, les enquêtes de conjoncture n'ont pas du tout bronché au Brexit. Alors, absolument pas. Elles n'ont pas bronché cet été et ça va même chaque mois un peu mieux. Et d'où ça vient ? Eh bien, c'est cette histoire que je vous racontais tout à l'heure, c'est-à-dire d'un élastique conjoncturel qui est positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a du retard de stockage, il y a même du retard d'investissement. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'on se retarde. Je ne sais pas si on va le rattraper, c'est pas très très bon pour la croissance de long terme. Mais au fond, maintenant, bah, on va se remettre à produire. Et donc les enquêtes sont bonnes, elles sont bonnes à peu près partout. Donc toujours cette idée que ça entretient aussi bah, le commerce intra-zone euro.
Est-ce que du côté des pays émergents, ce changement américain, là aussi, impacte ? On pense à la hausse du dollar, on pense à ce qui se passe sur les matières premières. Est-ce que les marchés émergents, comment on voit ça, y compris la Chine ? Parce que c'est vrai qu'on a eu des craintes en début d'année 2016 sur la Chine qui ont été levées par la suite. On pourrait en avoir en 2017 ou pas ?
Ouais. Alors la bonne nouvelle sur les marchés émergents, c'est que la situation d'aujourd'hui n'est pas du tout comparable à la situation de 2013 où il y a eu le fameux taper tantrum qui a effectivement provoqué en gros un resserrement des conditions financières dans beaucoup de pays émergents. Et donc là, en gros, on a des situations domestiques, externes qui se sont améliorées dans les pays émergents. Aujourd'hui, ce qu'on observe dans les pays émergents, c'est quelque chose d'ailleurs assez classique, c'est qu'au fond, il y a des situations très différentes. Il y a, comme vous le dites, la Chine, où la conjoncture va plutôt assez bien. Derrière, il y a un impact sans doute de l'activité dans le secteur de l'immobilier. Et finalement, ça soutient l'ensemble des pays asiatiques. Ça va mieux à Hong Kong, Taïwan, Singapour, etc. Et puis, dans le reste de la sphère émergente, alors là, on s'aperçoit qu'il y a des situations qui sont très spécifiques. Et sans doute, des difficultés dans plusieurs gros pays émergents qui arrivent de façon synchrone, mais qui n'ont pas de lien entre elles. La Turquie, évidemment le Brésil, qui est sans doute le maillon faible dans la sphère émergente, le Mexique pour d'autres raisons, et donc ça arrive simultanément. Donc ça donne l'image encore de pays émergents qui sont très différenciés, avec vraiment des situations très, très différentes et sans doute un maillon faible qu'il faut quand même garder dans un coin de sa tête, c'est le Brésil.
Merci Christophe Morel d'avoir fait le point avec nous.
Merci beaucoup.